Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, eh bien oui, des contes, des histoires de toutes sortes. Alors, nous avons... dans des précédentes émissions, eu des contes d'Henri Gougaud. Enfin, c'était des contes traditionnels que Henri Gougaud avait réinterprétés à sa manière. Et c'est vrai que tous ces contes se passaient plus ou moins dans le Moyen-Orient et tous étaient plus ou moins d'inspiration soufie. Eh bien, aujourd'hui, on plonge au cœur même des contes soufis avec ces contes recueillis par Idriss Shah. Dans ce livre qui s'appelle « Chercheur de vérité ». Et oui, parce que on vous l'avait peut-être pas dit quand vous y étiez petit, mais dans la vie, il faut chercher la vérité. Certains la trouvent, et d'autres pas. Oui, c'est compliqué cette histoire de chercheur de vérité, parce que le soufisme, voilà ce qu'on peut lire en quatrième de couverture de ce livre. Chercheur de vérité d'Idriss Shah. Bien que pour des raisons historiques, le soufisme se soit développé au sein de l'islam, il n'est nullement particulier à ce dernier et l'a sans doute précédé sous des noms et des aspects divers. Le soufisme ignore ou déjoue les dogmes étriqués et s'attache avant tout à libérer la vie emprisonnée sous la gangue. Idriss Shah a réuni dans ce livre un grand nombre de contes, d'anecdotes tirées du quotidien, d'histoires à valeur d'exemple ou d'avertissement, par lesquels les maîtres soufis transmettaient leurs enseignements. Et il nous fait entrevoir, comme l'écrit Doris Lessing dans sa préface, oui, c'est une préface de Doris Lessing, la complexité, la richesse et l'originalité de l'héritage soufi. Voilà. Alors, c'est vrai que, au niveau du style, dans ces contes, avec Idriss Shah, on est dans quelque chose d'assez, on va dire, d'assez direct, d'assez sec par rapport à la manière de dire d'Henri Gougaud, qui est beaucoup plus poétique, lyrique même, on peut dire, hein, d'un certain point de vue. Là, c'est plus sec. Et puis, c'est la recherche de la vérité. Donc, des fois, on a des choses très surprenantes, très étonnantes, des contes bizarres. Mais, ma foi, ils font tous du bien à entendre. Comme l'on dit dans la tradition soufie et dans d'autres aussi, les contes ont tellement de niveaux d'interprétation. Une simple blague, par exemple, peut être prise au premier degré, mais après on peut en voir d'autres implications. Et c'est la même chose pour toutes ces histoires. Néanmoins, comme le but est de passer au-delà des concepts, au-delà des mots, des idées, des théories, pour avoir une expérience directe de la vérité, ou en tout cas d'une certaine vérité, eh bien, il faut aussi ne pas s'attacher juste au langage et essayer de se faire plus ébranler par ces histoires que d'y passer des heures à réfléchir. Donc, relaxez-vous, c'est pas compliqué. La musique, c'est Hamza El-Din, un des plus grands joueurs de luth, je crois, d'Égypte, je pense, hein, ou de la haute Égypte, à moins qu'il soit plutôt du côté du Soudan. Il doit être là-bas, hein. Enfin, vous voyez, c'est pas l'Égypte, bien sûr, du delta du Nil, c'est l'Égypte profonde, là-bas, vers le désert. Et c'est un joueur de luth dans un style très spécial qui va nous accompagner tout au long de ces contes que Idriss Shah a recueillis. Une petite balade dans les contes soufis. On y va. Prière. On raconte parmi les sages qu'une année de grande sécheresse, les gens de Kahr al-Arifin allèrent demander au maître Bahauddin Naqshband de prier Dieu pour qu'il pleuve. Il les conduisit à travers les rues de la ville jusqu'à un lieu où une femme était assise berçant un nourrisson dans ses bras. « Je t'en supplie, allaite ce nouveau-né, » dit le maître. « Je sais quand je dois l'allaiter, » répondit-elle, « puisque je suis sa mère. Pourquoi te mêles-tu de choses qui sont réglées d'une manière dont tu ne sais rien ?» Bahauddin demanda que soient consignées les paroles de cette femme et les fit lire à haute voix devant la foule. Viande d'éléphant. Nous tenons d'Ibrahim Kawas ce récit enseignement qui a servi à mesurer la compréhension des étudiants du soufisme. Je voyageais par mer en compagnie d'un groupe de soufis. Notre navire fit naufrage. Et seuls quelques-uns d'entre nous réussirent à bien que mal à atteindre un rivage désert, malheureusement. Nous ignorions où nous étions et nous n'avions rien à manger. Et à mesure que les jours passaient sans qu'aucun secours se manifeste, il devenait clair qu'il ne nous restait plus qu'à attendre la mort. Après avoir examiné la situation, nous décidâmes que chacun d'entre nous ferait un vœu d'accomplir une bonne action ou de renoncer à une mauvaise action qui le coupait de son Seigneur. Ainsi, pensions-nous, l'exercice de la sincérité nous permettrait peut-être de sortir de l'impuissance où nous étions. Chacun fit un serment. L'un jura que dorénavant il observerait le jeûne. Un autre qu'il ferait tant de prières par jour, un troisième qu'il irait à pied, en pèlerinage. Quand tous mes compagnons eurent ainsi proclamé leurs intentions et pris l'engagement de s'abstenir désormais de tel plaisir ou d'observer telle pratique religieuse, mon tour vint d'annoncer mon vœu. Les autres me demandèrent de parler. Je voulais moi aussi faire une promesse, mais avant même que je réfléchis, l'idée me vint de dire « Je ne mangerai pas de viande d'éléphant ». « Ce n'est pas le moment de plaisanter ou de s'amuser !» s'exclamèrent mes compagnons. « Comment peux-tu dire des choses pareilles alors que nous sommes en danger de mort ?»« Dieu m'est témoin, protestai-je, que je n'ai pas dit cela dans cette intention. Tandis que vous parliez, je réfléchissais à toutes les bonnes actions que je pourrais faire et à toutes les habitudes mauvaises auxquelles je pourrais renoncer. Et quelque chose m'a empêché de me décider. Ce que je viens de dire m'est venu comme ça. » Sans que j'y réfléchisse et je l'ai dit. Peut-être quelque sagesse divine m'a-t-elle mis cette idée dans la tête et poussé à parler ainsi. Les naufrageurs décidèrent alors d'explorer la contrée où ils avaient été jetés pour chercher à manger. Après avoir convenu d'un point de ralliement et décidé de partager entre eux la nourriture qu'ils trouveraient, ils commencèrent leur recherche. Les autres étaient encore tout près quand mon ami surprit un jeune éléphanteau. Si nous le tuons pour le manger, nous pourrons survivre. L'animal fut abattu et sa viande cuite sur un feu. Lorsqu'on me proposa ma part, je fus incapable d'y toucher. Vous êtes témoin, dis-je, que j'ai fait le vœu de m'abstenir précisément de cette viande. Je ne peux pas rompre mon serment. Qui sait si ce n'est pas Dieu lui-même qui m'a donné l'idée de faire ce vœu-là pour que je meure. De toute façon, il est illicite de rompre un serment. Le repas terminé, chacun s'allongea pour dormir. Soudain, nous entendîmes les barrissements d'un éléphant furieux qui arrivait sur nous. Le bruit était si terrible que la terre en tremblait. Mes compagnons étaient frappés de terreur. Abandonnant tout espoir, ils murmurèrent la profession de foi comme font ceux qui y sont face à la mort. Lorsqu'il fut sur nous, l'éléphant étendit sa trompe et se mit à renifler un par un chacun des voyageurs. Dès qu'il avait flairé l'odeur d'éléphant rôti, il le piétinait à mort. Il les tua tous, l'un après l'autre. Puis, il vint vers moi. Je gisais sur le sol, récitant la shahada. Une terreur mortelle m'étreignait. L'éléphant me flaira à plusieurs reprises, mais pas aussi hâtivement qu'il l'avait fait pour les autres. Puis, il me saisit avec sa trompe. J'imaginais qu'il allait m'infliger un supplice différent. Mais il me déposa sur son dos, où je m'assis, et il s'éloigna, tantôt marchant, tantôt courant. Il parcourut une longue distance. J'étais extrêmement mal à l'aise ainsi juché, mais je commençais à espérer que je trouverais peut-être un moyen de m'échapper. Au point du jour, l'éléphant m'enlaça avec sa trompe et me déposa à terre. Et aussitôt, il s'enfuit dans la direction d'où nous étions venus. Je ne pouvais comprendre pourquoi il avait agi ainsi. Et la crainte ne m'avait pas abandonné, mais je le vis courir, disparaître à l'horizon. Rendant grâce de ma délivrance, je priai et remerciai mon Seigneur quand je sentis la chaleur du jour naissant. Je levai les yeux et m'aperçus que je me trouvais près d'une grande route. Après avoir cheminé un moment, j'entrai dans une ville populeuse. Je racontai aux gens ce qui m'était arrivé. Ils se montrèrent très surpris et m'expliquèrent qu'il fallait normalement plusieurs jours de route pour venir de la région d'où j'étais venu avec l'éléphant. Ainsi, après avoir séjourné quelque temps dans cette ville, repris les forces, je pus retourner dans mon pays sain et sauf. Mais j'étais le seul du groupe. Générosité. Imam Ghazali raconte dans le troisième livre de son Renouveau des sciences religieuses comment un homme réputé pour être généreux a appris ce qu'est la vraie générosité. Abdullah ibn Jafar possédait un verger. Un jour qu'il se rendait à son domaine, il aperçut en traversant une vigne un esclave noir assis, un pain devant lui, un chien se tenait tout près. Abdullah vit l'esclave rompre le pain et jeter le morceau au chien, qui le mangea. Puis il en donna une deuxième fois, une troisième. Abdullah demanda à cet homme « Quelle quantité de pain reçois-tu chaque jour ?»« La quantité même que tu as vue et que ce chien a mangé. Pourquoi, sans qui, Abdullah, donnes-tu ce pain à un chien au lieu de pourvoir d'abord à tes besoins ?» « Il n'y a pas de chien dans les parages, » dit le noir. « Celui-ci a parcouru une longue distance, il est affamé. Comment veux-tu que j'aie envie de manger mon pain ?»« Mais comment vas-tu faire aujourd'hui pour manger ?» insista Abdullah, le généreux. « Eh bien, je supporterai la faim, » dit le noir. « C'est à moi que l'on fait une réputation de générosité, » pensa Abdullah. « Pourtant, cet esclave l'est bien plus que moi. » Il acheta la vigne, en fit don à l'esclave, qu'il racheta pour la franchir aussitôt. Dans la même veine, écoutez cette histoire qui s'intitule « Voisin » et qui est arrivée à l'imam Abu Hanifa, le fondateur de l'école juridique dite Hanifite, qui fut aussi l'un des grands soufis. Esprit indépendant, jamais il n'accepta de fréquenter la cour malgré les manœuvres du calife pour tenter de l'attirer à lui. Abu Hanifa avait un voisin cordonnier de son état et alcoolique invétéré. Bien que chaque nuit, les folles divagations de l'ivrogne vinssent troubler ses méditations, jamais l'imam ne s'était plaint. Une nuit, comme de la chambre du cordonnier ne venait aucun bruit, l'imam alla prendre de ses nouvelles. Apprenant que la police impériale l'avait arrêté, il vint immédiatement au palais voir le calife Mansour. À la vue de l'imam, les gardes bondirent au garde à vous. Les grands officiers de la couronne, les courtisans s'inclinèrent, les émirs se levèrent de leur siège. Le calife alla au-devant d'Abou Hanifa. Il le reçut à la porte de la salle d'audience et le conduisit jusqu'au trône et l'y fit asseoir. « Puis-je savoir ce que me vaut l'honneur de ta visite ?» demanda le calife. « Le cordonnier qui habite à côté de chez moi a été arrêté. Je viens demander sa libération, » répondit l'imam. « Mais cet homme est un ivrogne notoire !» s'écria le capitaine de la garde. « Cet homme est sans ami, » dit l'imam, « et il est mon voisin. »« Imam illustre, » dit le calife, « ta noblesse d'esprit doit être appréciée à sa juste valeur. Tu intercèdes pour un prisonnier, notre générosité répondra à la tienne. Je libère par la présente déclaration tous les prisonniers sans exception détenus sur mon territoire. »
Yo shorti ka git masau mastodato ashirandito.
Juste une phrase, tiens. Les feux d'aujourd'hui sont les cendres de demain. C'est la période des feux de la Saint-Jean, tiens. La loi de l'effet inverse. Un homme vint trouver Al-Shah Bahouddin Naqshband. Il lui demanda de lui donner des instructions précises. Alors, je le précise aussi, Al-Shah Bahouddin Naqshband était un maître soufi très très illustre et reconnu. Il lui demanda donc de lui donner des instructions précises quant au comportement et au mode de vie qu'il devait adopter et de lui dire ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Le maître invita à dîner un petit groupe de ses disciples et fit signe aux visiteurs de répéter ses questions. Quand ce fut fait, Cheikh Bahouddin lui dit « Laisse-toi vivre. Vole pour subvenir à tes besoins et n'oublie pas de m'apporter ma part. Omets de faire les prières et néglige ta tenue. Efforce-toi toujours de prendre le dessus sur les autres. Bref, que l'absence de principe et la ruse soient tes guides. » Tandis que le maître parlait ainsi, le postulant s'agitait de plus en plus mal à l'aise. Et quand il eut tout entendu, il se précipita vers la porte et partit. Quelques semaines plus tard, Bahouddin Naqshband demanda si quelqu'un avait des nouvelles de son candidat disciple. « Oui, dirent les élèves, cet homme mène une vie exemplaire à Samarkand. Il est vrai qu'il raconte à tout le monde que tu es Satan en personne et que tu as tenté de le détourner du droit chemin. » « Si je lui avais conseillé, dit Bahouddin, en riant de mener une vie vertueuse, il ne m'aurait pas obéi, parce que c'est précisément ce qu'on a cessé de lui dire et de lui répéter sur tous les tons depuis son plus jeune âge. En fait, il avait envie d'entendre autre chose, quelque chose de nouveau, et quand j'ai assailli son moi intérieur en lui proposant un étrange mode de vie, il s'est rendu compte qu'il préférait le sort d'un homme vertueux et obligeant. » Idolâtrie. Quelqu'un demanda à un soufi, « Apprends-moi à prier. » « Non seulement pries-tu déjà, dit le soufi, mais une part de ton esprit est constamment occupée à prier. « Je ne comprends pas, répliqua l'autre, car cela fait des mois que je suis incapable de prier Dieu pour je ne sais quelle raison. Tu m'as dit, « Apprends-moi à prier. » Tu n'as pas mentionné Dieu. Or, la prière où tu t'absorbes depuis des mois s'adresse à tes voisins, car tu te préoccupes constamment de ce qu'ils peuvent penser de toi. Tu fais aussi une prière permanente à une idole, l'argent. Parce que c'est d'argent que tu as envie. Ta prière s'adresse encore à une image de la sécurité, à une image de l'abondance. Si tu attends de Dieu et si tu pries autant au point que cela constitue une part permanente de ton être, est-il étonnant que tu n'aies pas de place pour une autre sorte de prière ? Quelqu'un demanda à un soufi des expériences de toute la vie, quelle est celle qui t'a le plus marqué, le plus appris et dont l'effet s'est fait le plus sentir ? Le soufi répondit, l'expérience que je vais rapporter m'a tant appris sur ce que je savais déjà, mais ne comprenais pas, qu'elle reste pour moi la leçon des leçons. Auparavant, j'étais du nombre des ignorants instruits. Je passais pour savant et me prenais moi-même pour un sage. Après cela, les choses ont changé. J'avais décidé d'aller voir le grand sage Shiiltan. Les intrigues des petits esprits avaient fini par monter les gens contre lui. Et quand j'arrivais chez lui, une foule hurlante se pressait devant sa maison. La populace aboyait comme une meute lancée sur sa proie. Alors, il sortit sur son balcon et se tint là, immobile, sans répondre. Un homme se mit à l'injurier plus fort que tous les autres, ce qui eut pour effet de faire taire à la foule. Et ils écoutèrent, bouche bée, leur chacal en chef. Mais plus l'homme insultait le soufi, plus ils semblèrent mal à l'aise, comme frappés de stupeur devant tant de violence. Enfin, tandis que le sage gardait toujours le silence, ils commencèrent à murmurer contre cet homme qui était encore quelques minutes avant leur porte-parole. Je pensais, c'est sûrement un miracle. Dieu se sert de ses ennemis pour venir en aide à ses amis, mais que va-t-il devenir du meneur qui est maintenant en passe de devenir le bouc émissaire de toute la populace ? Alors, tandis que la foule commençait à huer le meneur, je vis le sage de Shiiltan s'avancer et lui asséner un coup sur la tête. Je me dis, ah, il est regrettable qu'il n'ait pas su se maîtriser au moment de la victoire. Mais la foule se dispersa, et je quittai les lieux sans rendre visite au sage, car je ne savais plus que penser. J'errai depuis une heure ou deux quand j'aperçus un pauvre derviche au bord de la route, un bol de lait caillé devant lui. Il m'offrit de partager son repas et je m'assis à ses côtés. Il avait lu dans mes pensées tandis que je mangeais, car il me dit au bout de quelques minutes, « Homme sans foi et sans merci, tu te demandes pourquoi le sage de Shiiltan n'a pas su garder son calme et pour quelle raison il a frappé son tourmenteur, annulant par là même à tes yeux sa réputation de maîtrise de soi. Sache, ô juge ignorant des apparences, que la réalité est différente de ce que tu imagines. Ce qui te semble un fait n'est que pure imagination. Le sage a frappé cet homme, c'est là le seul et unique fait. Son intention, en revanche, ce n'est pas un fait visible, mais une construction de ton esprit perverti. Il a frappé l'homme pour dissiper la foule. S'il ne l'avait pas fait, c'est elle qui aurait l'instant d'après attaqué son persécuteur. En le frappant, il a donné satisfaction au goût immodéré de la populace pour le spectacle du châtiment. L'agresseur n'a eu aucun mal. La vérité, c'est qu'il a été protégé, sauvé même de la fureur de la foule qui, sans cela, l'aurait mis en pièces. Alors tu vois, ce qui semblait être un acte de violence était effectivement un coup, était le seul moyen de préserver la vie de l'agresseur. Tant que tu ne sauras pas voir ces choses et les voir dans ton cœur, tu ne seras pas l'un des élus et tu joueras tel l'enfant qui grappille les fruits secs. Et cela, tu l'appelleras savoir ou jugement ou connaissance. Mais tu n'auras pas la compréhension et tu resteras à jamais un animal. À moins que tu apprennes et que tu apprennes et que tu apprennes. Conte à rebours, eh bien voilà, un petit tour parmi les contes soufis du livre d'Idriss Shah, chercheur de vérité. Peut-être, comme il y en a d'autres, on y reviendra. En tout cas, bien, c'était Marco. Je vous dis ciao. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.